Méditation pour le bien commun dans le scorpion. Une parole du maître extraite de hiérarchie. Je cite. Voyez la réflexion du cosmos dans le grand principe de construction et de fusion. Lorsque nous, frères de l'humanité, constatons l'image fausse que l'humanité se fait de nous, nous ne pouvons que dire. Vous construisez des hypothèses sur des apparences fantomatiques. Pour vous, nous ne sommes que des fantômes. Mais pour l'esprit qui affirme notre existence ardente, alors, au lieu de fantômes, nous sommes les guerriers du feu. Fin de citation. Rappelons en passant que les livres Hiérarchie, Cœur, en yoga, dont nous citons des extraits, ont été donnés dans la série Agni Yoga, transmise par le maître Moria à Elena Rorik, son grand disciple. Introduction à la méditation. Dans tous les signes, nous le savons bien, existent au moins trois degrés principaux de conscience humaine. Des paliers, si on peut dire, à partir desquels s'échelonnent toutes les variations possibles des aptitudes de la conscience, toutes les graduations les plus subtiles. Mais, de façon globale, l'humain va de la conscience des plans personnels terrestres qui englobent l'intellect, l'astral et le physique, au plan de la conscience de la hiérarchie spirituelle qui commence au niveau du mental abstrait, en passant naturellement par la conscience médiane, celle dite de l'âme, de l'ego illuminé, qui fait le lien entre le mental concret et le mental abstrait. Cette âme, qui est le principe qui se réincarne maintes et maintes fois dans les mondes illusoires de la conscience purement terrestre, porte en elle le pouvoir d'introduire la perception de la réalité au sein de l'humanité enfouie dans les fausses valeurs. Et justement, nous pouvons dire que l'axe scorpion-taureau est celui par excellence qui donne à l'âme le pouvoir de dissiper les mirages et les illusions. Dès que l'aspirant à la vérité entre en contact conscient avec l'âme qu'il est en réalité, avec son principe réincarnant, il est saisi par l'urgente nécessité de dissiper en lui tout ce qui est faux, dans le but de devenir d'abord un disciple participant à sa mesure au travail de la hiérarchie, puis un initié pleinement responsable dans l'acte hiérarchique. Ce qui impliquera alors qu'il participera à la dissipation du mirage mondial, car il aura affirmé sa victoire sur ses propres mirages. Chaque aspirant est concerné quelque part par le rayon d'énergie du scorpion et du taureau. Il ne faut pas oublier que la conscience de l'âme puise ses ressources dans tous les signes. Et chaque aspirant est invité d'urgence par les vrais instructeurs à dissiper les mirages et les illusions de sa vie avant de pouvoir espérer toute collaboration avec la hiérarchie. La flamme ardente de l'esprit de vérité flamboie haut dans le ciel du scorpion, et l'aspirant est invité à l'invoquer et à plonger dedans pour que tout ce qui est faux en lui soit dissous. C'est une lutte incessante et sans merci, une confrontation permanente qui, pour être victorieuse, nécessite d'éliminer toute complaisance envers soi-même. Il faut donc bien l'ouvrir l'œil pour regarder en face toute chose et la voir telle qu'elle est, que ce soit en soi ou autour de soi. Regarder en face sa propre réalité, à la fois sa réalité divine, certes, mais aussi les véritables aptitudes ou les vrais manques qui font que l'on exprimera cette réalité avec fidélité ou qu'on la chargera des oripeaux du mirage. Combien veulent mettre la charrue avant les bœufs? On veut travailler avec la hiérarchie, on veut être un collaborateur, on veut être un disciple et un grand, bien sûr, de préférence. Et une pichenette renverse le téméraire. On veut porter le monde et on ne se porte pas soi-même. On prétend connaître le logos planétaire et tous les maîtres à bord du vaisseau hiérarchique. On connaît le dessein mondial. Mais quand il s'agit de diriger sa propre barque, on se heurte au premier écueil venu. Cela n'est pas étonnant que les braves gens dotés de bon sens se méfient de tout ce qui touche à ce monde de l'ésotérisme. Ce sont les aspirants et les apprentis disciples qui font le plus de tort à l'enseignement de la hiérarchie par leur comportement et leurs prétentions. Alors, l'urgence est à la bataille, oui, à la dissipation des mirages dans la vie de l'aspirant à l'état du disciple. Pour cela, les forces martiennes s'associent à la lumière de l'intelligence mercurienne. Mars donne le courage de regarder en face les petites vérités quotidiennes mises en lumière par Mercure. Et Mars ne nous invite pas à aller combattre les mirages des autres ou les erreurs des autres avant d'avoir vaincu les nôtres. Et quand nous avons vaincu les nôtres, la hiérarchie de Mercure, qui gouverne au plan de l'intuition, nous instruit dans l'art et la manière de la lutte pour dissiper le mirage autour de nous. Et ce n'est plus par la violence, la rage ou la soi-disant épée de feu que l'on va brandir sur la tête de ceux qui ne partagent pas nos visions, nos fantasmes ou idées fixes que l'on dissipe le mirage du monde. C'est par la connaissance juste de la stratégie des forces de lumière qui utilisent les énergies avec sagesse. C'est au sein de la sagesse que l'on découvre la vraie épée de feu. Et le scorpion, doublé du taureau, par le pouvoir de Mercure, nous invite à utiliser avec sagesse l'énergie du quatrième rayon. C'est-à-dire, à l'intégrer d'abord en soi pleinement, à fusionner ensuite consciemment avec la hiérarchie qui en est maître sur le plan bouddhique. Et alors, tout naturellement, nous saurons l'utiliser dans la bataille du monde. Intégrer en soi cette énergie qui porte d'abord le conflit quand elle est mal reçue, mais qui est un facteur d'harmonie véritable quand on a vaincu. Curieusement, le mot d'intégration de cette énergie dans la conscience et la vie du disciple est fermeté. Il s'agit bien sûr de la fermeté de l'âme et non pas de l'autorité de la personnalité égocentrique de l'aspirant. La fermeté de l'âme puise en direct dans l'esprit de vérité qui affirme le juste dans l'innocuité. La fermeté de l'âme permet de prendre l'attitude juste reconnue dans la lumière en face de quelque situation que ce soit et de conserver cette attitude. Le disciple doit apprendre à demeurer ferme dans la vérité en tout et pour tout, quelles que soient les pressions de la vie. C'est l'aptitude à demeurer ferme dans la lumière de l'âme qui révélera alors au disciple la méthode de la fusion dans le cœur de la hiérarchie. La manière de mettre en œuvre la fermeté de l'âme, et non pas l'autorité de la personnalité, nous le répétons, est naturellement la méditation. Puisque l'énergie suit la pensée, l'une des manières de méditer dans la posture au centre, qui va nous fortifier à la fois dans l'esprit de vérité et dans le pouvoir de dissipation des mille et un mirages du quotidien, les nôtres, ou ceux des autres qui veulent envahir notre sphère, est celle-ci. Nous l'appelons la méditation sur les trois B. Bienveillance. Bénédiction. Bienfait. Que le disciple médite sur l'état de bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance? Autrement dit, l'état de celui qui veille pour le bien. Elle n'est certes pas mollesse ou lâcheté. Il n'y a pas de bienveillance sans fermeté de l'âme. Il n'y a pas de bienveillance sans vérité. L'état de bienveillance donne au centre ajna son juste fonctionnement. Voir bien, beau et vrai. Il entraîne le pouvoir de la parole de bénédiction. Dire le bien, dire le beau, dire le vrai. Existe-t-il le bien et le beau sans le vrai? Le centre de la gorge fonctionne alors dans le juste sens créateur. Par voie de conséquence, le centre sacré se trouve rédempté. Progressivement se met à tourner dans le juste sens et de foyer récepteur des feux noirs de la terre qu'il était au commencement, il devient le foyer dispensateur du vrai courage, de la vraie fermeté, de la juste paix. L'aspirant en lutte au sein de la Maya du monde devient le guerrier triomphant. Dans la bienveillance, la bénédiction, et tout son acte de vie devient le bien fait, le juste faire. Le long de sa colonne vertébrale s'écoule l'énergie de la lumière, imprégnée de qualité de la vie amour qui est celle de l'éther bouddhique. Alors seulement l'instructeur de la hiérarchie lui insufflera dans sa conscience les réalités de la collaboration au grand travail. Sans tambour, sans trompette, sans fantasme, mais dans le silence de paix d'un lieu secret et calme, que rien ne peut